Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition Géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. Défilé militaire, distribution de logements la plus grande jamais organisée dans le pays, émission d'une nouvelle pièce de monnaie de 200 dinars, soit 1,31 euros, et des gestes envers les détenus du mouvement de protestation du Irak. Le 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie s'est voulu il y a quelques jours sans commune mesure avec le cinquantenaire de la présidence Bouteflika. Il y a 10 ans. Le président Abdelmadjid Tebboune a voulu marquer les esprits. Plusieurs chefs d'État étrangers étaient présents aux cérémonies, dont le président tunisien. Alors que la guerre en Ukraine fait flamber les prix du gaz et du pétrole, la situation économique de l'Algérie, très dépendante des fluctuations du cours des hydrocarbures, connaît une embellie et le pays est très courtisé. Les recettes des exportations algériennes de ces matières premières énergétiques devraient atteindre les 48 milliards d'euros vers la fin 2022 contre 35,4 milliards en 2021. Regard sur l'Algérie aujourd'hui, 60 ans après son indépendance et alors que la révolution pacifique du 22 février 2019, connue sous le nom de Irak, avait suscité un immense espoir dans le pays. Regard avec nos invités par téléphone, Pierre Vermeren, professeur d'histoire des sociétés arabes et berbères contemporaines à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et membre du laboratoire CIRIS, auteur de nombreux ouvrages et notamment Histoire de l'Algérie contemporaine aux éditions Nouveau Monde. Bonjour Pierre Vermeren.
Bonjour Marie-France Chatin.
En studio, Amer Ouali, journaliste à l'agence France Presse à Paris, directeur du bureau d'Alger de l'AFP entre 2014 et 2017 et ancien correspondant de l'agence durant les années 1990, auteur de « Du verbe au fusil, la terreur sainte, retour sur la décennie noire, Algérie 1991-2002 » aux éditions Éric Bonnier. Bonjour.
Bonjour, merci de m'avoir invité.
Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Et Kader Abderrahim, maître de conférence à Sciences Po, auteur de Géopolitique de l'Algérie aux éditions Bibliomonde. Bonjour.
Bonjour Marie-France Chatin.
Au lendemain de son indépendance, il y a donc 60 ans, l'Algérie offrait beaucoup de promesses. Je propose que dans cette première partie d'émission, on se pose sur votre regard sur la trajectoire algérienne ces 6 décennies passées. Je vous propose de commencer avec vous, Pierre Vermeren. Quel bilan peut-on faire à la fois alors politique, économique, sociétal? On développera dans cette émission, Pierre Vermeren.
Bon, évidemment, c'est très complexe parce qu'il y a une profondeur historique maintenant. Ça fait 3 générations presque que l'Algérie est indépendante. C'est un très grand pays, c'est le plus grand pays d'Afrique. Elle a beaucoup changé, cette population algérienne, puisqu'elle a été multipliée par plus que 4, ce qui est considérable. Ça veut dire que les villes, les extensions bâties, le logement, les activités de toutes sortes sont sans commune mesure par rapport à 1962. Alors maintenant, ce qui est notable, c'est quand même le décalage, si vous voulez, entre les transformations, les évolutions du pays et, par exemple, la construction de la première armée d'Afrique, la construction d'une industrie pétro-gazière tout à fait considérable, l'extension des très grandes villes, mais en revanche, au niveau politique, une certaine stagnation, puisqu'on a dit au moment du Irak que l'Algérie, enfin c'est les Algériens eux-mêmes, ont dit que le Irak apparaissait il y a quelques années, en 2019, comme une deuxième indépendance. La première indépendance ayant été la libération nationale, la seconde aurait été la conquête de la démocratie. Or, cette démocratie se fait attendre, c'est un euphémisme, le régime est autoritaire, il a connu des phases différentes, évidemment, en fonction des présidents, en fonction des événements internationaux, en fonction des événements intérieurs, comme par exemple la décennie noire. Mais la constante, si vous voulez, c'est que l'armée, le régime légitimé par l'histoire révolutionnaire de la guerre d'indépendance reste comme... il n'est pas immobile, mais il reste au centre du paysage et il bloque finalement les évolutions vers plus d'ouverture, vers plus de démocratie. Ce qui est surprenant pour terminer, dans un pays dont aujourd'hui la quasi-totalité de la population va à l'école. Vous avez plusieurs millions d'étudiants. Bon, le système est déficient par bien des égards, mais il fonctionne néanmoins. Il y a une très puissante administration
Et pourtant, la question politique reste intégralement posée. Et là, on est 2 ans et demi après le Irak et rien n'a changé.
Alors, on reviendra bien sûr sur tout cela, sur la place de l'armée, le Irak. En termes démographiques, je reprends ce chiffre que vous donnez d'ailleurs dans votre ouvrage, Pierre Vermeren. La population algérienne est passée de 11 millions d'habitants en 1962 à 44 millions aujourd'hui. Commentaire ici en studio, Amer Wali et Kader Abderrahim, sur à la fois ce qu'a dit Pierre Vermeren, est-ce que vous êtes d'accord? Qu'est-ce que vous souhaiteriez rajouter, Amer Wali?
Alors, j'utilise une formule un peu connue que tout le monde répète. Effectivement, en 62, on a libéré le pays, on a libéré la terre, mais le citoyen algérien reste à libérer. Donc, effectivement, il y a des conquêtes sociales, des conquêtes économiques. Alors, c'est vrai, la population algérienne, depuis quelques années, elle augmente de 1 million d'habitants par an. Donc, on est passé effectivement de 11 millions à 44 millions. Le taux de scolarisation est impressionnant. Aujourd'hui, effectivement, on a 2 millions d'étudiants inscrits à l'université. On a des millions de lycéens. Voilà, donc il y a des conquêtes, effectivement. Le niveau de vie des Algériens, bien sûr, s'est nettement amélioré par rapport à l'indépendance. On soigne mieux les Algériens. Donc il y a quand même, alors même si le système de santé est déficient, mais les Algériens, quand même, il y a une meilleure espérance de vie. Les Algériens sont mieux soignés. Il y a un meilleur accès aux soins. Donc de ce point de vue, je pense qu'il y a des conquêtes qu'on ne peut pas nier. Mais c'est vrai que d'un point de vue politique, les choses restent à faire. C'est même pas une question de stagnation. Moi, je pense qu'il y a même une régression par rapport à ce qu'il s'est passé en 89. Je rappelle que l'Algérie a connu son printemps démocratique avant le printemps arabe. En 89, l'Algérie a connu une formidable expérience démocratique qui, malheureusement, a été interrompue en 92. On pourra en parler tout à l'heure.
Bien sûr. Kader Abderrahim.
Oui, je suis globalement d'accord avec ce qui vient d'être dit par mes collègues. Bilan contrasté, hein, pour dire les choses. Et je serais sans doute plus sévère parce que globalement, ça fait presque 3 générations. Et le bilan, même s'il est contrasté, il est quand même contrasté d'une manière négative au sens où la promesse d'indépendance ne s'est pas réalisée. Et aujourd'hui, l'Algérie est entrée à tout point de vue dans un momentum de régression à la fois politique, ça a été déjà souligné par 2 fois, mais aussi social, diplomatique, économique. Et on voit bien que c'est un pays qui, pour utiliser une métaphore, qui patine, hein, qui a beaucoup de mal à trouver. Alors, j'ouvre une parenthèse, c'est vrai que les 20 ans de règne, c'est comme ça qu'il faut le dire, hein, je crois, de Bouteflika ont été absolument désastreux pour l'Algérie parce que ça a été l'exercice solitaire à la fois du pouvoir, mais également de son exercice. C'est-à-dire que la société a été mise en coupe réglée de manière à favoriser les intérêts d'un clan, d'une famille, je ne sais plus aujourd'hui que dire. Et d'ailleurs, c'est très compliqué pour nous chercheurs de regarder l'Algérie parce que on ne dispose dans le fond d'assez peu d'éléments tangibles pour mettre des mots sur des situations. Tout se passe dans la coulisse et dans l'ombre. Et donc, il devient très très compliqué pour l'observateur extérieur de voir et de comprendre. Alors, il est encore beaucoup plus difficile d'avoir des informations qui soient exploitable là encore d'un point de vue strictement scientifique et rationnel parce que il y a énormément de rumeurs et je crois que c'est devenu un mode de gestion de laisser la rumeur devenir une forme de d'information parallèle qui fait que dans le fond on ne sait plus sur quel pied danser parce qu'on ne sait plus si on doit se référer à la rumeur publique ou à se référer aux discours officiels qui eux-mêmes sont quand même très largement discrédité.
Alors, je vais passer la parole et on va poursuivre le tour de table. Mais Kader Abderrahim, quand vous parlez de rumeurs, ce sont des rumeurs qui portent sur quoi? De quoi est-il question? Qu'avez-vous à l'esprit?
Mais sur tous les sujets, tout le temps, tous les jours, quand on est dans une ville comme Alger, par exemple, la capitale, ça bruit de toutes les rumeurs sur l'état de santé d'un tel ou d'une telle, sur les possibilités de réforme ou pas, l'arrestation d'un tel, etc. Donc on est en permanence confronté à une situation qui, dans le fond, est devenu, encore une fois, j'insiste beaucoup là-dessus, mais est devenu une forme de gestion publique par l'État d'une situation dans laquelle, évidemment, ceux qui dirigent ont intérêt à continuer à entretenir la rumeur parce que l'information pourrait devenir explosive pour leurs propres intérêts.
Alors, opacité du système, on l'a bien compris. Il est vrai que le régime algérien est un régime autoritaire. Pierre Vermeren, un certain nombre d'intellectuels algériens parle de gâchis au regard du potentiel dont le pays disposait en 1960. Est-ce que vous partagez ?
Oui, je le partage, mais un mot juste sur cette rumeur, et je crois qu'il faut se replacer dans le contexte de la vie des Algériens d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils sont, pour la plupart d'entre eux, enfermés dans leur pays. Et la rumeur, c'est aussi le contre-coup de l'enfermement. Il y a très peu, vous savez, de personnes qui visitent l'Algérie, en dehors des Algériens de l'extérieur, qui rentrent au pays quand ils le peuvent, puisque le pays vient d'être fermé plus de 2 ans. Et les Algériens, à 95%, peut-être le chiffre est arbitraire, c'est peut-être 90 ou 96, peu importe, ne peuvent pas sortir de leur pays. Les frontières avec les pays voisins sont fermées. Bon, la Tunisie, elles viennent apparemment de réouvrir, mais enfin, c'est assez faible. Et les Algériens ont besoin de visa pour aller en Europe, et c'est très difficile pour la plupart d'entre eux. Donc, étant enfermés dans leur propre pays, évidemment, la rumeur se propage d'autant plus. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas connectés au monde du fait des réseaux sociaux.
Et enfermés, on est d'accord, pour cause de Covid, Pierre Vermeren ?
Non, pas seulement, puisque les conditions de revenus pour avoir des visas en Europe sont évidemment très tendues, très difficiles. Il y a beaucoup d'Algériens qui veulent émigrer, et les pays qui accueillent l'immigration se méfient. Et puis, il y a un problème de revenus, évidemment. Les Algériens ne peuvent pas sortir facilement. La plupart d'entre eux n'ont pas les revenus qui leur permettent cela. Et puis, il y a les frontières, encore une fois, qui sont fermées avec la Libye, avec les pays du Sahel, avec le Maroc, pour commencer. Donc, si vous voulez, l'enfermement est contraint de différentes manières. Le gâchis, bon, c'est difficile de parler comme ça, mais ce qui est certain, c'est que l'Algérie, dans les années 60, elle est à la fois le patron du monde arabe et un des grands, peut-être le deuxième ou troisième principal pays d'Afrique, si on excepte l'Afrique du Sud, et encore, elle a la légitimité politique avec elle. Donc la régression de ce point de vue-là par rapport aux monarchies du Golfe et par rapport aux Émirats ou à l'Arabie Saoudite est quand même très nette. Le problème, si vous voulez, principal, dont on n'a pas encore parlé pour moi, c'est le grand gâchis, effectivement, des deux décennies Bouteflika, c'est que le pays avait les moyens de construire une économie, il avait les moyens de préparer l'avenir, hein, parce qu'on parle toujours de transition aujourd'hui et on met à l'index le gaz, le pétrole, les hydrocarbures. À court terme, c'est une richesse qui a permis de créer un effet d'illusion de richesse en Algérie, c'est pour ça que les Algériens ont un bon niveau de vie. Mais il n'y a pas d'autre économie. Il n'y a plus d'agriculture, où elle est très faible. Il n'y a plus d'industrie. Elle a sombré avec l'économie socialiste au moment de la chute de l'URSS. Il n'y a pas d'économie libérale ou libre. Il y a quelques grandes multinationales, il y a quelques entreprises qui sont en main de riches hommes d'affaires algériens, mais il n'y a pas d'économie, il n'y a pas d'emploi. Ça veut dire que l'après-pétrole, l'après-gaz n'a pas été pensé. Et ça, c'est terrible parce qu'aujourd'hui, finalement, avec un pétrole ou un gaz à prix très élevé, comme vous l'avez dit, l'État est riche et la population peut en vivre, mais que va-t-il se passer dans 10 ans quand l'Algérie fera plus de 50 millions d'habitants et que l'économie pétrolière se mettra au ralenti ou s'arrêtera? Et là, vraiment, il y a une très très grande angoisse. Et c'est très étonnant que le personnel politique algérien ne s'intéresse pas à cette question de l'avenir parce que au fond, ça pourra ruiner, avec le recul, l'ensemble des efforts qui ont été fournis depuis 60 ans, ce qui est quand même surprenant.
Et pourtant, le sommet de l'État algérien se dit pleinement conscient de cette problématique, de cette économie dysfonctionnante avec la rente pétrolière. On peut rappeler pour nos auditeurs que les hydrocarbures, c'est 95% des exportations algériennes et 60% des recettes fiscales. Alors, il y a un appel à diversification industrielle qui se multiplie. Pourquoi le modèle autoritaire algérien, au contraire du modèle autoritaire chinois, n'a pas réussi à produire de développement? Qui souhaite répondre, Amer Wali?
Marie-France, juste une phrase, si vous permettez.
Oui.
Je cite le président Tebboune, hein, qui a dit « l'Algérie n'a pas d'économie ». Donc, effectivement, la prise de conscience est nette. Maintenant, je laisse nos compagnons répondre.
Amer Wali.
Alors, juste un petit mot sur la rumeur. Je confirme que la rumeur est un mode de fonctionnement en Algérie. Ce n'est pas fortuit, ce n'est pas gratuit, c'est tout à fait un mode de fonctionnement. Moi, j'ai travaillé donc pendant 10 ans, les 10 années de guerre civile, j'étais en Algérie, de la décennie noire. Je suis reparti à Alger comme directeur du bureau de l'AFP. Alors c'est très très difficile d'avoir des informations. Vous pouvez appeler toutes les sources officielles que vous voulez, vous n'avez absolument rien du tout. Par contre, ce qui est encore assez incroyable, c'est que même la presse algérienne, c'est pas faire injure à mes confrères, à mes amis de la presse algérienne, mais même dans la presse, il y a énormément de rumeurs. Donc, quand on travaille sur l'Algérie, c'est très difficile d'avoir la bonne information. À la fois, quand vous appelez le gouvernement, donc les ministères, quand vous appelez des institutions, la douane par exemple, vous cherchez des statistiques, il y a un organisme qui s'appelle l'ONS, l'Office National des Statistiques, et vous avez envie d'avoir des chiffres sur l'économie, vous avez envie de faire un papier, c'est hyper compliqué. Et sinon, surtout, effectivement, la santé des dirigeants, les rapports entre les uns et les autres, tout fait l'objet de rumeurs. Et on passe, quand on est journaliste, on passe son temps, on s'épuise à essayer de vérifier les choses. Et c'est très difficile d'avoir les bonnes informations. Donc voilà, c'était juste...
Tout ça, avec l'expression de ce que disait Pierre Vermeulen précédemment, c'est le propre de pays qui vivent enfermés sur eux-mêmes.
Tout à fait.
Sur la question de la diversification de l'économie, Amer Wali, et pourquoi les Chinois ont réussi là où les Algériens ne l'ont pas?
Je n'ai pas de réponse précise, mais ce qui est sûr, c'est que depuis la fin des années 80, donc on est passé de l'économie centralisée, planifiée, et puis on a commencé les premières réformes en Algérie. On commençait avec, donc il y a eu un gouvernement qu'on a appelé un gouvernement des réformes en 89-90. Mmh. Donc depuis lors, on n'a pas cessé de dire qu'il fallait diversifier l'économie, qu'il faut sortir de la dépendance aux hydrocarbures. Alors, je rappelle que déjà en 90, beaucoup d'argent a été injecté pour redresser les entreprises publiques qui étaient très mal gérées, qui étaient déficitaires. On a mis énormément d'argent pour les redresser et soi-disant leur permettre de s'engager dans une vraie compétition. Mais finalement, c'est de l'argent qui a été consommé, qui n'a absolument rien produit. L'ouverture vers le privé, là, on a produit effectivement un certain nombre d'hommes d'affaires de grande envergure qui peut-être ont apporté un peu, mais ça reste marginal. Effectivement, pour l'instant, il n'y a pas de vraie économie. Donc, en dehors des hydrocarbures, alors c'est 95% de recettes qui viennent des hydrocarbures, mais les 5% d'autres, c'est aussi des produits dérivés des hydrocarbures. Donc, hors hydrocarbures, on est à peu près à 1%. Il n'y a pas d'agriculture. Le tourisme, il y a un potentiel immense, mais on n'arrive pas à relancer le tourisme. Les services, on ne produit pas. Et voilà, donc effectivement, il y a conscience, les dirigeants algériens ont conscience de ce problème. Ils le répètent, ça fait 30 ans donc, qu'ils disent qu'il faut absolument diversifier, mais je crois qu'on n'y arrive pas. Et c'est quand même assez remarquable de voir que les 20 ans de Bouteflika, on a eu des recettes immense, immense. Alors, si bien qu'on avait des réserves impressionnantes, 200 milliards de dollars de réserves, on avait créé ce qu'on appelait un fonds de régulation des recettes d'hydrocarbures qui permettait d'économiser parce que le budget était calculé sur un chiffre et les recettes étaient supérieures. Donc, on a créé un fonds de régulation des recettes qui, après, a été dépensé. Alors, Bouteflika a peut-être lancé de grands ouvrages, l'autoroute, des barrages et tout, mais ça n'a pas entraîné le reste de l'économie et surtout, ça a favorisé la corruption. C'est ça qui s'est passé pendant les années Bouteflika. Il y a eu énormément de corruption.
La corruption qui est à l'origine, alors on développera dans la deuxième partie de l'émission. Kader Abderrahim, avant la fin de cette première partie, vous souhaitez rajouter quelque chose sur la question de l'économie? On parle de l'impossible réforme de l'économie algérienne.
Il n'y a pas de totalité, donc impossible. Vous connaissez la suite. Le constat, c'est que même s'il y a une prise de conscience, en tout cas dans le discours, sur le plan pratique, on ne voit rien. Mais je crois que tout cela, et peut-être j'anticipe un peu de manière un peu prétentieuse, peut-être, mais je crois que tout est rattaché à une idée élémentaire, c'est qu'il n'y a plus de projet politique en Algérie, quel qu'il soit, projet social et économique, projet diplomatique, et puis cette manière de se projeter dans l'avenir qui n'existe plus en Algérie, parce que les dirigeants, c'est assez étonnant, je crois que c'est un exemple assez unique dans l'histoire contemporaine, de dirigeants qui se transmettent comme ça cette idée que, dans le fond, nous avons une légitimité historique, sauf qu'aujourd'hui, dans les sociétés modernes, la légitimité, elle doit être issue des urnes et que les peuples n'acceptent plus cette légitimité historique qui est devenue très insuffisante. Donc le constat, c'est l'absence de projet et deux, on revient à la question de fond qui est celle de la légitimité politique. politique.
Alors, pas de projet politique en Algérie. On vous retrouve, Kader Abderrahim, avec Pierre Vermeeren qui est avec nous par téléphone et Amer Ouali en studio après le journal. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, nous retrouvons nos invités par téléphone. Pierre Vermeeren, professeur d'histoire des sociétés arabes et berbères contemporaines à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et membre du laboratoire Siris, auteur de nombreux ouvrages, notamment Histoire de l'Algérie contemporaine aux éditions Nouveau Monde. En studio, Kader Abderrahim, maître de conférence à Sciences Po, auteur de Géopolitique de l'Algérie, paru aux éditions Bibliomonde, et Amer Ouali, journaliste à l'agence France Presse à Paris, directeur du bureau d'Algérie de l'AFP entre 2014 et 2017 et ancien correspondant de l'agence dans les années 1990, auteur de Du Verbe au Fusil, La Terreur Sainte, Retour sur la décennie noire, Algérie 1991-2002, aux éditions Éric Bonnier. Pierre Vermeeren, on a terminé la première partie de l'émission sur les nécessités de réforme économique en Algérie, dont on peut rappeler que le pays est très largement exportateur d'hydrocarbures qui constitue 60% des recettes fiscales et qu'une véritable réforme économique serait nécessaire, ne serait-ce que pour préparer l'après-hydrocarbures et puis réindustrialiser le pays. Votre commentaire sur la nécessité d'une réforme de l'économie, Pierre Vermeeren ?
Bon, la nécessité est évidente, mais manifestement, il y a un problème à la fois culturel et social, si vous voulez. Tous les Algériens vous disent qu'on est très mal soigné en Algérie, alors qu'à Paris, on se bat pour avoir des médecins algériens. Et on pourrait multiplier les exemples dans ce domaine, vous voyez. Bon, je crois qu'il y a une délégitimation historique du travail en Algérie pour des raisons très compliquées. Il faudrait remonter aux Turcs, mais on n'a pas le temps. Mmh. Il faudrait remonter à l'économie coloniale, qui a été évidemment la fameuse expression « faire suer le burnou ». Finalement, l'indépendance, ça a été l'idée qu'on pouvait se libérer du travail, notamment grâce au pétrole, grâce à la rente pétrolière. S'ajoute à ça la couche socialiste comme en Union soviétique qui, pendant longtemps, a, disons, en supprimant l'intérêt privé, a délégitimé aussi l'intérêt à travailler pour soi, avec un État prédateur tout au long de ces périodes, qui confisque l'impôt, enfin quand il le fait, ou en tout cas qui verse l'argent de manière totalement déconnectée du travail. On a une économie administrée. Et finalement, le gouvernement algérien, il a mis la main sur le capital immobilier, sur la terre, il redistribue la rente foncière, la rente immobilière, la rente pétrolière. Et c'est toujours l'État, l'État, l'État. Et le travail, finalement, apparaît comme quelque chose de relativement inutile. Donc il y a là un niveau, un blocage à la fois politique, psychologique, historique, qui, à mon avis, est une des composantes qu'on ne doit pas négliger et qui est pour autant très compliquée, évidemment.
Alors, je ne sais pas si vous souhaitez réagir ici en studio. Peut-être c'est l'occasion de revenir sur les cérémonies du 60e anniversaire dont je parlais en introduction de cette émission. Grand défilé militaire, distribution de logements, la plus grande jamais organisée dans le pays, émission d'une nouvelle pièce de monnaie de 200 dinars. Bref, les cérémonies pour le 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie ont été sans commune mesure avec celle d'il y a 10 ans pour le cinquantenaire de l'indépendance de l'Algérie sous la présidence Bouteflika. Vous avez un commentaire ici à faire sur ces cérémonies et les largesses de l'État algérien, Amer Ouali ?
Alors, si j'ai bonne mémoire, vous me corrigez, Pierre et Kader, si je dis des bêtises. Je crois que la dernière parade militaire en Algérie, elle a eu lieu en 1984. C'était pour les 30 ans de la Toussaint Rouge. Donc il y a eu effectivement une grande parade militaire. Alors, c'est dans un contexte un peu particulier. C'était le premier mandat de Chadi Benjedid, du président Benjedid. Donc l'Algérie était un pays qui se portait relativement bien. Voilà. Et depuis, il n'y a pas eu de parade militaire. Il y a eu en 1987, c'était les 25 ans de l'indépendance. Donc pareil, le président Chadli, qui était en train d'effectuer son deuxième mandat, il avait aussi organisé d'immenses manifestations. Alors, il n'y a pas eu de parade militaire, mais effectivement, c'était impressionnant. Beaucoup d'invités venus du monde entier. Donc, distribution de cadeaux, de logements, inauguration du fameux complexe commercial et culturel à Alger, qu'on appelle Riad al-Fitr, avec ce monument, le monument aux morts. Donc, c'était assez impressionnant en 87. Mais de défilé militaire, il n'y en a pas eu depuis 1984. Et là, c'est assez important parce qu'il y a un contexte, bien sûr, particulier. passer, donc la guerre en Ukraine, le Maroc.
Un message à l'étranger, on en parlera dans l'émission de demain, clairement, et sur le plan intérieur aussi.
Bien sûr, alors sur le plan intérieur aussi, parce que la nouvelle constitution donc, qui a été adoptée donc, depuis l'arrivée du président Tebboune a consolider la place de l'armée dans le dispositif général. Donc c'était important justement de le montrer. Alors si vous permettez, je vais lire juste un petit passage de la dernière constitution. Le peuple algérien nourrit une fierté et une reconnaissance légitime à l'endroit de son armée nationale populaire pour la préservation du pays contre toute menace extérieure et pour contribution essentielle à la protection des citoyens, des institutions et des biens contre le fléau du terrorisme, ce qui contribue au renforcement de la cohésion nationale et à la consécration de l'esprit de solidarité. Donc le rôle de l'armée, la place de l'armée est renforcée dans la nouvelle constitution. C'était un moment pour le rappeler concrètement.
Kader Abderrahim.
Oui, c'est vrai que sur l'interprétation ou l'analyse qu'on peut faire de ce défilé militaire à Alger à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance, illustre la capacité dont l'Algérie se perçoit et l'image qu'elle veut projeter auprès de ses partenaires, au mieux, et de ses voisins, on va dire. Moi, je relève juste qu'il y a eu, notamment comme personnalité, parmi les nombreuses qui ont été invitées, le président tunisien et le président palestinien. Alors, le président palestinien, je crois, et Mahmoud Abbas, étaient également invités à Alger, avec Ismaïl Haniyeh, qui est le chef du Hamas dans les territoires palestiniens, notamment à Gaza. Donc il y a une volonté, je ne sais pas si elle trouvera un prolongement concret, de la part de l'Algérie de renouer avec ce qui a fait sa marque de fabrique dans les années 70 après l'indépendance, cette tentative de médiation entre différents courants politiques, puisque l'Algérie, par rapport à ce qu'elle dit de son voisin marocain, reste très déterminée par rapport au fait qu'il doit y avoir un État palestinien, mais également l'application des accords d'Oslo. Donc, je crois que dans tout cela, il y a quelque chose d'assez brouillon, mais tout cela illustre dans le fond cette idée que l'Algérie a quand même beaucoup de mal à se renouveler, beaucoup de mal à trouver ou à tracer une nouvelle voie et qu'elle est aujourd'hui encore en train de, je dirais, de gérer l'histoire, parfois de manière plus ou moins habile et plus ou moins réussie. Et dans le fond, cet anniversaire du 5 juillet aura marqué l'idée que si le bilan est contrasté, comme pour toutes les nations, dans le cas de l'Algérie, on a encore beaucoup de mal aujourd'hui à imaginer ce que peut être l'avenir d'un point de vue algérien, parce qu'il y a une fracture, une dichotomie entre la société réelle et les dirigeants politiques.
Alors, fracture entre la société et les dirigeants politiques qui s'est exprimée pleinement. C'est peut-être le moment de parler du Irak, ce mouvement donc né le 21 février 2019. Mais en même temps, j'aurais voulu qu'on reste un tout petit peu sur la question de l'armée et de la prééminence des militaires qui a aussi été contestée à travers le mouvement du Irak. Alors, la réalité de cette emprise, bon, vous l'avez dit, la question de la Constitution, on peut rappeler aussi que c'est l'armée, je me tourne vers vous Pierre Vermeeren, qui a renversé Bouteflika en 2019. Et dans votre ouvrage, dont je rappelle le titre, Histoire de l'Algérie contemporaine, Pierre Vermeeren, vous posez la question de savoir pourquoi l'armée a accepté la fin de règne interminable et dégradante de Bouteflika. Vous dites que les autorités algériennes ont peur du vide.
C'est la question de la légitimité politique. Si vous voulez, ce régime, il est légitime parce qu'il est l'héritier des Moudjahidines et de ceux qui ont fait la révolution, c'est-à-dire la guerre d'indépendance contre la France. Cette histoire a été enseignée, et on pourrait presque dire serinée, aux Algériens depuis 60 ans, à l'école, à la télévision, dans les médias, dans les cérémonies officielles, etc. C'est le fondement de la République algérienne. Et Bouteflika était le dernier héritier, même acteur de cette histoire. Donc on a fait durer, jusqu'au bout du possible, cette histoire. Maintenant, on est passé à la génération d'après. Les gens qui dirigent aujourd'hui l'Algérie étaient des adolescents pendant la guerre d'Algérie. Donc ils ne l'ont pas fait, évidemment. Et plus personne aujourd'hui, ou presque, en Algérie, à part quelques très vieux messieurs, n'a participé à cette histoire. Et donc la question de la légitimité se pose du fait du changement des générations. Et il faudrait effectivement retrouver un nouveau projet. Et finalement, on est dans une forme de congélation où aujourd'hui, ce qui apparaît comme légitime pour diriger l'État algérien, c'est l'appareil militaire qui est l'héritier hyper puissant. Il faut rappeler que c'est la première armée du monde arabe et d'Afrique, en tout cas en effectif, en équipement. Et donc, cette très puissante armée, en tant qu'héritière, en tant qu'appareil hérité de Boumédienne et de la lutte de la guerre d'indépendance, eh bien, c'est l'appareil qui, aujourd'hui, est au centre du jeu politique. Mais voilà, il faudrait inventer autre chose. Or, c'est très intéressant quand on regarde ce qui s'est passé, justement, au moment de cet anniversaire, pour terminer, de ces 60 ans. Qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu un défilé militaire, très bien. On a eu les Jeux méditerranéens, dans laquelle l'Algérie s'est classée quatrième derrière la France, d'ailleurs. C'était vraiment le pain et le cirque. Et puis le colloque de réflexion intellectuelle, il a eu lieu à Paris, à l'initiative de l'Institut de géopolitique de Paris 8, qui est venu débattre avec une soixantaine d'universitaires algériens de l'évolution du pays depuis 60 ans. Mais ça n'a pas eu lieu en Algérie, comme s'il y avait une paralysie de la pensée. Et on est encore en suspens, on est dans un moment d'attente très étonnant d'ailleurs.
Géopolitique.
Alors, congélation, paralysie de la pensée, pour poursuivre avec la question militaire, dont Pierre Vermeulen disait que l'institution et sa puissance aujourd'hui en Algérie étaient l'héritière finalement de la lutte en faveur de la guerre d'indépendance à Merwali, renforcée par la lutte contre le front islamique du Salut dans les années 1990. Vous étiez vous-même correspondant en Algérie à ce moment-là. L'armée s'est retrouvée assez renforcée par cette décennie noire, comme on l'appelle aujourd'hui.
Oui, alors, petite observation. Donc, c'est effectivement la première fois que l'Algérie, elle a à sa tête deux dirigeants qui ne sont pas issus de la guerre d'indépendance. Donc, je parle du président Abdelmadjid Tebboune et du chef de l'état-major. Donc, effectivement, comme le disait Pierre, on a poussé jusqu'à son extrême limite cette légitimité issue de la guerre d'indépendance. Aujourd'hui, je crois qu'il y a encore un seul dirigeant de l'armée, c'est le chef de la garde républicaine, le général Ben Ali, qui est un ancien maquisard. Sinon, tout le commandement militaire ne vient pas de la guerre d'indépendance. Et puis tous les autres dirigeants dans les ministères, partout, donc il n'y a plus la génération de la guerre d'indépendance. Effectivement, voilà, on a utilisé jusqu'au bout. Donc aujourd'hui, il faut passer à autre chose. Donc la légitimité venu de la guerre d'indépendance, 60 ans après, il est très difficile de s'en servir pour se maintenir. Il y a, de mon point de vue, je peux me tromper, je pense qu'il y a une nouvelle recherche de légitimité, justement, dans la lutte contre le terrorisme. Parce que je pense que l'échec le plus retentissant du régime qui a pris le pouvoir en 62, c'est la décennie noire. Alors, on peut bien sûr rentrer dans les détails, comment on est arrivé à là, mais je pense que la décennie noire est un échec. Et je suis très bien placé pour avoir travaillé pendant 10 ans comme journaliste, comme correspondant, et puis après comme directeur de bureau, pour dire que pour le régime, ça a été un vrai traumatisme. Un régime autoritaire qui après se trouve défié, qui se trouve incapable d'assurer la sécurité de sa population, ça a été un véritable traumatisme. Moi, je me souviens très très bien qu'en tant que journaliste, à chaque fois que je donnais une information sur la violence, j'avais des rappels à l'ordre, mais j'ai eu des problèmes incroyables. Enfin, je ne peux en
parler. Il y a une énorme opacité sur tout ce qui s'est passé.
Bien sûr, oui, on peut en parler quand on va aller dans les détails de la décennie, mais moi, je peux dire, pour le régime, c'était un traumatisme.
Donner, et pour la société également,
bien
je
sûr,
suppose.
Bien sûr, donner au monde entier cette image d'un régime qui n'est pas capable de protéger sa population, ça a été très dur. Alors, il s'est passé ce qui s'est passé. Donc, le régime, finalement, a réussi au bout de dizaines de milliers de morts à reprendre le contrôle. Et aujourd'hui, et comme on le souligne dans la nouvelle Constitution, c'est la lutte contre le terrorisme qui devient la source de légitimité du pouvoir. Et d'ailleurs, dans la nouvelle Constitution, dans le nouveau code pénal qui vient de sortir en Algérie, on a élargi la définition du terrorisme pour justement continuer à contrôler la société. Donc aujourd'hui, toute organisation politique, tout individu, parce qu'il y a une définition tellement élastique du terrorisme que quiconque, n'importe quelle organisation, n'importe quel individu peut être poursuivi pour des faits de terrorisme.
Alors comment la société algérienne s'est-elle remise de ces années 1990, de cette décennie noire ? Et finalement, qu'en est-il de la place de l'islam aujourd'hui ? Le projet salafiste de république islamiste, il a été abandonné, Kader Abderrahim ?
Je ne sais pas s'il a été abandonné par ses avocats ou ses précurseurs, mais en tout cas, pour ce qui concerne la société algérienne, aujourd'hui, elle s'est détournée d'un tel projet. En revanche, on ne peut pas nier qu'il y a dans la société profonde une forme de, comment dire, de religiosité qui s'est emparée parce que on aurait, dans les années 90, à la fois subi, mais en même temps payé le prix d'une société qui s'est détachée ou qui a fermé les yeux sur ses traditions, ses valeurs ancestrales et qui, dans le fond, aurait dû payer une forme de fatalisme, comme on l'entend très très souvent en Algérie. Donc, je crois que l'islamisme aujourd'hui n'est plus un enjeu. Du reste, il est multiple, il s'est fragmenté et puis surtout, il a été intégré par le régime, avec beaucoup d'habileté, par Bouteflika. Donc on trouve aujourd'hui, à l'intérieur du système politique, à peu près toute la palette des courants tels que définis par Marx. Il y a des islamo-conservateurs, il y a des islamo-révolutionnaires, il y a des libéraux, des progressistes, si ça existe, etc. etc. Donc c'est très compliqué, mais en même temps, cet émiettement a permis une gestion politique dans laquelle on joue sur les divisions et les rivalités et puis les appétits personnels. Parce que dans le fond, l'esprit humain revient toujours à cette idée que charité bien ordonnée commence par soi-même.
Alors Pierre Vermeren, je vais terminer cette émission avec vous pour alors peut-être votre commentaire sur la question de la décennie noire et puis faire le pont, il est un peu délicat, mais je pense que dans l'esprit des autorités algériennes, c'est là aussi la question du Irak, donc ce mouvement né en février 2019 et qui s'est traduit par de gigantesques manifestations, pas seulement dans la capitale Alger, mais également dans les grandes villes d'Algérie. Finalement, phénomène répressif, d'une certaine manière, le Irak a-t-il pu être associé à un mouvement de terrorisme, Pierre Vermeren ?
Non, parce que les présidents qui ont dirigé l'Algérie pendant cette période, eux-mêmes ont fini par parler d'un Irak, ils ont même employé le mot de Moubarak, c'est-à-dire de Irak béni. C'est pour vous dire à quel point on est loin de l'analyse du terrorisme. Bon, en réalité, ce mouvement politique et social de contestation sans précédent qui a donné un tout à fait autre visage de la société algérienne que celui qui était attendu ou présenté dans les médias, a fait trembler le pouvoir, a fait trembler le régime. Ça a été une espèce de vague de fond incroyable dont seul finalement le Covid est venu à bout. Bon, c'est pas propre d'ailleurs à l'Algérie, pensons à d'autres pays. C'est quelque chose qui rajoute encore un tabou. Alors on peut plus parler de rien en réalité en Algérie. On peut pas parler de la colonisation, sauf pour en dire ce que pense le régime. On peut pas vraiment parler de la guerre de libération, sauf pour dire la version du régime. On ne parle absolument pas de la décennie noire. Et je rappelle qu'il n'y a aucun travaux, aucun livre, on ne sait à peu près rien sur cette période. Et bientôt le Irak va rentrer aussi au musée du silence, si je puis dire, parce qu'il pose la question démocratique qui est évidemment celle de la légitimité, de l'armée, des élections, de la classe politique. Bon. Donc tout ça fait un ensemble très, très étrange, très complexe, que les Algériens se font les propres analystes de leur histoire. Ils sont très sensibles, très connaisseurs de tout cela, mais entre eux, chez eux, à domicile, et en même temps, par certains côtés, on a, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, cette centralité de l'État militaire au centre du jeu qui semble immobile alors que tout change autour de lui, bien évidemment.
Merci Pierre Vermeren. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire des sociétés arabes et berbères contemporaines à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et membre du laboratoire CIRIS, auteur pour ce qui nous intéressait aujourd'hui de Histoire de l'Algérie contemporaine aux éditions Nouveau Monde. Merci aussi Kader Abderrahim, maître de conférence à Sciences Po, auteur de Géopolitique de l'Algérie aux éditions Bibliomonde, et Amer Wali, journaliste à l'agence France Presse à Paris, directeur du bureau d'Alger de l'AFP entre 2014 et 2017 et auteur de Du Verbe au fusil, La terreur sainte, retour sur la décennie noire, Algérie 1991-2002, paru aux éditions Éric Bonnier. Je signale aussi le numéro de Politique étrangère Algérie de l'indépendance au Irak, numéro de l'été 2022. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Cécile Lavolo et Nathalie Laporte. Demain, deuxième volet de notre programmation sur l'Algérie, nous évoquerons la place du pays pays dans son environnement régional et combien la question de la relation entre l'Algérie et le Maroc est un sérieux obstacle au développement du Maghreb et au-delà. À demain.